Si tu veux, je te propose qu'on fasse une pause musicale et qu'on reprenne, reprenne effectivement sur cette période un peu d'évolution en fait, des revendications des Kurdes.
Diyarbakır ortasında vurulmuş uzanırım. Ben bu kurşun sesini nerede olsa tanırım. Bu dağlarda gençliğim cayır cayır yanarken ay vurur gözü yaşıma. Ben gecede kalırım, ben gecede kalırım. Bu dağlarda gençliğim cayır cayır yanarken ay vurur gözü yaşıma. Ben gecede kalırım. Üzülme sen üzülme, başını eğme. Gün olur kavuşuruz, dert etme Diyarbakır. Ağlama sen ağlama, kanlı bezler bağlama. Bu yangın söner bir gün, ağlama Diyarbakır.
Donc toujours notre invité Aurélie Stern autour du livre L'antimilitarisme en Turquie. Aux éditions ACL, c'est-à-dire Atelier de création libertaire. Donc on avait parlé de la contestation, des contestations justement sur ce militarisme, sur le rôle de l'armée. Mais jusqu'à présent, on n'a pas abordé directement l'antimilitarisme. Il y a peut-être une raison, puisque c'est les mouvements dont tu as parlé dans les années 70, ils n'étaient pas si antimilitaristes que ça en fait.
Oui, il ne l'était d'ailleurs pas du tout, en fait. À part un militant, toutes les autres organisations d'extrême-gauche, elles aimaient beaucoup l'armée, l'air de rien. Et elles demandaient même aux militaires de rallier leur cause. Ils pensaient, en fait, que c'était le gouvernement de l'époque qui était perverti. Mais, par exemple, ils aimaient beaucoup le personnage de Mustafa Kemal Atatürk en pensant que la république qu'il avait créée, c'était une très bonne république et qu'il fallait juste maintenant passer à l'étape supérieure et finalement créer une république communiste. Mais il n'y avait absolument pas de débat quant à l'anti-autoritarisme, ni par rapport à la question de l'égalité homme-femme, ni quoi que ce soit du genre, en fait. Ça a eu lieu beaucoup plus tard. Ça a eu lieu en 2013 avec le mouvement Gezi Park, dont tu as sûrement entendu parler.
Oui.
Et là, on pourrait dire que le mai 68 en France, il ne correspond pas au mouvement d'extrême-gauche des années 70 en Turquie. Il correspond beaucoup plus au mouvement Gezi Park, en fait.
Oui, donc avant d'arriver au moment Gezi Park, on va parler justement de ce qui fait un peu toute la dernière partie du livre et qui est introduit en fait par tout ce qu'on a évoqué avant, c'est-à-dire, il y a l'apparition d'un mouvement antimilitariste est donc beaucoup plus récent puisqu'il n'y avait pas de mouvement anti-autoritaire à l'époque, aux époques dont on a parlé. Donc finalement, dans quel moment est apparu à la fois, une contestation antimilitariste et avec une ouverture, évidemment, vers les idées anarchistes, puisque, on ne va pas refaire un peu toute l'histoire de l'antimilitarisme, mais enfin, c'est souvent très lié, pas uniquement d'ailleurs, mais c'est lié au mouvement anarchiste. Donc, si tu peux nous parler des débuts, comment c'est apparu?
Alors, en Turquie, c'est directement lié au mouvement anarchiste. En fait, à partir de 83, quand les organisations politiques sont de nouveau autorisées en Turquie après le terrible coup d'État de 1980. On a justement un espèce de vide politique parce que les communistes ont été extrêmement affaiblis. Et donc, il y a des nouvelles organisations qui commencent à apparaître, dont les anarchistes. Le premier journal anarchiste, il date de 85. C'était le journal Cara, donc noir, qui était publié à 800 exemplaires, dont 150 à 200 exemplaires étaient envoyés dans les prisons. C'est la première revue dans laquelle on commence à parler de droits des homosexuels, d'écologie, de thématiques qui n'avaient jamais été évoquées en Turquie jusqu'à ce jour.
Est-ce que tu as eu l'occasion, de, par rapport à ces premiers qui apparaissent, c'était des universitaires, c'est quoi au niveau sociologique, ça dépend ou...
À la Rabarman, pas tellement. Parce que même par rapport au journal Cara, ils essayaient d'utiliser une langue anti-universitaire ou anti-académique. Je ne sais pas lequel je peux utiliser dans ce cadre. C'était plutôt des anciens marxistes, en fait, reconvertis. Ou alors des gens très jeunes qui découvraient ça à ce moment-là.
Et est-ce qu'il y avait des... commençait à y avoir des traductions de textes anarchistes? Ou est-ce que c'est venu plus tard?
Non, alors c'est venu exactement à la même période. Il y a une maison d'édition qui s'appelait Les Éditions de la Rue, qui a commencé à traduire les premiers ouvrages anarchistes.
Est-ce que tu pourrais nous le dire en turc? Parce que comme tu parles parfaitement le turc et que c'est assez joli, comment ça se dit?
C'est Sokak Yayınlar.
Ah, tu vois que c'est joli, Monique.
Et donc, avec ses premiers ouvrages, en fait, c'est là où le mouvement anarchiste a pu grandir, parce que tout d'un coup, ils avaient des textes auxquels se référer. Après, il y a une autre revue qui a été créée, qui s'appelait FNDCs, donc 100 mètres. Et en fait, à ce moment dans l'histoire de l'anarchisme turc, il y a quelque chose d'assez étrange qui, à mon avis, n'a pas existé dans le mouvement anarchiste européen ou russe. Ils ont fait une différence entre l'anarchisme culturel et l'anarchisme politique. Et donc, ils ont scissionné. Il y a un groupe qui est devenu anarchiste culturel, qui a écrit une brochure, c'est pas allé beaucoup plus loin. Et j'ai jamais bien compris ce que ça voulait dire, mais apparemment, ils voulaient pas vraiment avoir un but politique. Et donc, la branche anarchiste qui existe encore aujourd'hui, bah, c'est des anarchistes politiques, enfin, dans leur jardin, qui sont...
Oui, c'est assez curieux, parce que justement, une des caractéristiques... Pour moi et pour beaucoup de gens, je pense, l'anarchisme aborde tous les aspects, y compris culturels. Enfin, il n'y a pas de séparation. C'est vrai qu'en plus, il faut se situer dans le contexte de l'époque où il y avait peut-être une approche de l'anarchisme livresque un peu rapide. Hein, c'est pas reproche, mais bon, avec ce qu'ils avaient sous la main, avec peut-être un certain passé militant marxiste-léniniste, comme tu le dis, enfin, ou marxiste en tout cas. Parce que, à mon avis, c'est une mauvaise connaissance de l'anarchisme que de vouloir couper justement l'aspect culturel, l'aspect politique, etc. Mais enfin bon, c'est la réalité en tout cas.
Voilà, en fait, j'ai pensé la même chose en lisant ça. Le problème, c'est qu'il y a un seul livre qui existe sur l'histoire de l'anarchisme en Turquie. Donc je me suis référée à ce livre pour pouvoir travailler sur les anarchistes. Et bien sûr, j'ai fait quelques entretiens. D'ailleurs, là, comme on est à la radio, j'aimerais bien faire une annonce. C'est qu'en fait, c'est un livre de Barış Soydan qu'il faudrait traduire. L'auteur, apparemment, serait tout à fait partant pour une traduction en français. Moi, je serais tout à fait motivée pour en faire une partie. Mais par contre, c'est long de traduire un livre en entier. Donc, s'il y a des turcophones qui nous entendent, qui pourraient être motivés pour faire ce travail avec moi, il suffirait qu'on soit 4 ou 5 et ce serait... Ce sera beaucoup plus rapide et évident à faire.
Bien sûr, oui. Oui, parce que c'est un gros travail, c'est un gros bouquin, non?
Oui, c'est un bouquin. En fait, l'intérêt de ce livre-là, c'est que c'est que des entretiens.
D'accord.
Apparemment, l'auteur n'est pas forcément anarchiste. Enfin, je pense que c'est un journaliste. Mmh. Il a écrit simplement une introduction historique. Et après, il a fait des interviews avec tous les anarchistes turcs depuis le début du mouvement jusqu'à aujourd'hui. Ce qui était évident, vu que comme ça a commencé en 85, ils sont presque encore tous de ce monde, mis à part Tayfun Gönül, qui est un anarchiste très important.
Parce c'est le premier objecteur de conscience.
Voilà, il est le premier objecteur de conscience de Turquie. qui a déclaré son objection en 1989.
Oui, qui était d'ailleurs pas spécialement jeune. Il n'était pas...
Voilà, il est déjà assez âgé. Il est mort de maladie il y a...
Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on est âgé et quand on se déclare objecteur de conscience, pratiquement matériellement? Ça veut dire que c'est contre l'armée ou c'est contre être appelé dans la réserve ou...
Je pense que, enfin, quand je dis assez âgé, en 85, il devait quand même encore avoir l'âge de faire le service parce que c'est possible de le repousser. Notamment en faisant des études universitaires. C'est possible de le repousser... Des fois presque indéfiniment, simplement à 29 ans, on n'a plus le droit de s'inscrire pour des nouvelles études. Mais d'accord. Il suffit qu'on soit déjà inscrit. En fait, en Turquie, il existe même des doctorats plus ou moins fictifs. Donc on est inscrit dans une université, on est censé faire un doctorat, mais on ne le finit jamais. En fait, on ne le fait pas. Le seul intérêt, c'est de pouvoir repousser le service. Parce que des fois, il y a des moments, c'est quelque chose d'assez étrange. Il y a certains moments où certaines générations peuvent payer... pour ne pas aller au service militaire. Donc j'ai fait des entretiens avec beaucoup de gens sur cette question pour savoir quelles sont les raisons. La chose qu'on m'a répondu le plus souvent, c'est que des fois l'État a besoin de reflouer ses caisses parce que c'est beaucoup d'argent. C'est quelque chose comme 10 000 euros. Mais 10 000 euros en Turquie, c'est énormément d'argent, sachant que les gens peuvent gagner 500 euros par mois. Enfin, ouais. Ça fait énormément. Aussi, c'est tout d'un coup comme ça, il y a une annonce en disant, par exemple, toute la génération née entre 1980 et 1982 peuvent payer. Enfin, en plus, des fois, il y a des places limitées. Je ne sais pas, il y a par exemple 2000 personnes qui vont pouvoir payer. Et donc, ils s'endettent. Souvent, ils demandent à la famille, etc. Ou même, ils prennent un crédit à la banque pour pouvoir payer ça. Et c'est toujours une génération qui est un petit peu âgée. Donc la deuxième possibilité, c'est qu'en plus de reflouer ses caisses, ça permettrait d'écarter ceux qui vont faire trop de problèmes, en fait. Parce qu'ils sont déjà trop cultivés, ils vont un petit peu résister, etc. Mais sinon, je pense que Typhoon Gonu, il avait encore l'âge, il n'avait pas encore fait le service. Mais c'est possible qu'il ait eu 40 ans et qu'il ait... je n'ai pas sa date de naissance là sous les yeux.
Et ça a dû quand même faire, enfin, je ne sais pas si tu as pu avoir des textes et tout, mais ça a dû quand même faire du bruit à l'époque, puis c'était le premier.
Ça fait beaucoup de bruit, surtout que les gens n'avaient jamais entendu parler d'objection de conscience. Donc c'est vraiment un nouveau concept, qui est d'ailleurs apparemment pas utilisé de la même manière qu'en France. Ça j'en ai parlé avec... André Bernard,
qui s'occupe d'ailleurs, je pense, de la collection, non, qui a sorti.
Voilà, et qui lui faisait une différence entre insoumis et objecteur. Il disait que dans la tradition francophone, quelqu'un qui n'est pas encore allé à l'armée est un insoumis. Un objecteur, c'est quelqu'un qui est à l'armée mais qui refuse de mettre le vêtement militaire. Et un déserteur, c'est quelqu'un qui est à l'armée, qui a mis son vêtement militaire et qui part. Alors que en Turquie, ils sont tous appelés objecteurs de conscience. Il n'y a pas du tout cette différence. Donc pour André Bernard, c'était une définition fautive, on va dire.
Oui, les définitions, il faut aussi les ramener au contexte. Le contexte turc n'est pas le même que le contexte français en général, et particulièrement dans ce domaine-là, dans le même militaire, quoi, c'est sûr. Enfin, en tout cas, si les gens l'utilisaient dans l'optique que tu dis en Turquie, il faut le conserver. Enfin, l'expliquer, bien sûr, mais tu les signes dans ton livre.
Non, parce que j'ai appris ça très récemment.
Non, mais enfin, au début, tu fais une différence, antimilitariste, objecteur de conscience, etc.
Voilà, parce que, en fait, l'objection de conscience, c'est uniquement le fait de refuser de faire son service militaire pour des raisons liées à sa conscience, mais ça peut être, c'est pas forcément le fait d'être pacifiste, ça peut être que ta religion ne te l'autorise pas, ou ça peut être plein de raisons différentes, c'est quelque chose d'individuel, tandis que l'antimilitarisme, c'est quelque chose de beaucoup plus global, c'est être contre... Le militarisme, pas uniquement l'institution militaire ou la guerre, mais le militarisme en tant que domination.
Oui, puis en plus en Turquie, vu ce que tu as un peu raconté dans les séquences précédentes, ça a quand même une signification pour tous les Turcs, quoi. C'est clair, quoi. Le militarisme, c'est le régime en place, mais qu'on l'approuve ou qu'on l'approuve pas.
En Turquie, c'est étonnamment très proche de l'anarchisme parce que ils disent que l'antimilitarisme, c'est être contre la domination du militaire sur le civil, mais aussi de l'homme sur la femme, de l'adulte sur l'enfant, et de l'être humain sur la nature. Donc, après, en discutant avec eux, la seule différence qu'il y a après, avec l'anarchiste, selon eux, c'est que les antimilitaristes sont forcément pacifistes, alors que ce n'est pas forcément le cas de tous les anarchismes. Et en plus, cet anarchisme véhicule quand même un projet politique, alors que l'antimilitarisme, pas forcément. Donc ça, c'était pour les définitions.
D'accord. Donc, en 89, bon, première déclaration d'objection de conscience, alors qu'est-ce qui lui arrive ?
Alors, sur le moment, il lui arrive rien. Il n'est pas incarcéré. Il y a des histoires d'amende. En fait, c'est ce qui est arrivé aussi très, très souvent en Turquie, en fait. C'est que les gens soient condamnés à des amendes ou à des peines de prison qui sont commutées en amende, etc. Mais sur le moment, il lui arrive rien. Il crée, avec Vedat Zencir, un autre militant, en 1992, une organisation qui s'appelle l'Organisation de ceux qui sont contre la guerre. Parce qu'il existe comme ça un concept en turc.
C'est pas le SKD, là, c'est ça?
Voilà, c'est Savaş Karşıtları Derneği.
Non, je m'en souviens parce que je crois qu'ils ont été interdits par la suite.
Voilà, donc ils ont interdit à plusieurs reprises parce que en Turquie, quand je parle d'organisation, c'est des organisations qui ont des statuts officiels.
D'accord.
En fait, donc c'est très facile de les interdire parce qu'il suffit de plus leur donner leur statut officiel. Donc elle est dissoute une première fois, elle est recréée à Izmir avec le même nom mais en rajoutant l'organisation de ceux qui sont contre la guerre d'Izmir.
ISKD quoi.
Exactement.
Non mais j'invente rien, j'ai lu dans ton livre. Hein.
Non mais c'est bien que les gens des fois se rappellent des choses.
Ah mais j'ai lu très près, hein, et j'ai lu plusieurs fois en plus.
Et
alors... donc il continue à avoir d'autres objecteurs après, petit à petit quoi, dans la période.
Voilà, il continue d'avoir d'autres objecteurs même à cette période beaucoup, je dirais.
Il y en a un, je tiens quand même à. Enfin, j'ai lu dans ton livre, si tu veux bien, là, j'ai lu un peu des extraits. Alors, je ne sais pas si c'est une interview ou une déclaration. Non, je pense que c'est une déclaration qu'il a fait à l'époque, qui s'appelle Yavuz Atan, c'est ça. Je suis un objecteur total, d'ailleurs, t'expliqueras ce que ça veut dire. Je suis désobéissant. C'est des extraits, hein, je n'ai pas tout lu. Je continuerai à agir en vue de l'avènement d'un monde juste et libre. Sans nation, sans pays, sans État, sans guerre, parce que je suis anarchiste. Voilà. C'est une déclaration qu'il a faite à l'époque. Peut-être, oui, bah, je crois qu'il y a un livre qui est sorti là-bas qui reprend les déclarations, les diverses
déclarations.
C'est là-dedans hein, que oui. Qui est extrait. Et c'est bon, c'est clair quand même. Pour lui, en tout cas.
Oui, alors comme tu parles de Yavuz Atan, je vais lui faire une petite dédicace parce que j'ai complètement oublié d'écrire des remerciements au début du livre. Ouais. Et c'est dommage parce que sinon je lui aurais dédié parce que on est devenus amis suite à l'interview que j'ai fait avec lui. Et en fait, il m'a énormément aidé déjà en me donnant des contacts, mais surtout en me conseillant, en discutant avec moi en permanence. Et il est justement de la génération des premiers objecteurs de conscience. Mmh. Donc je crois qu'il a objecté en 93, quelque chose comme ça.
Enfin, le pouvoir, j'imagine, il n'a pas laissé se développer ça comme ça. Alors, comment ils ont réprimé ? Il y a peut-être eu divers épisodes, je ne sais pas.
Voilà, il y a eu divers épisodes, c'est venu un petit peu doucement. Il y a eu notamment... une émission dans une télévision turque, en fait, où les... ça, c'était rigolo. Les caméramans ont été arrêtés. Mais bon, aussi les objecteurs, ils devaient avoir une peine de prison commutée en amende, etc. Ah oui, quelque chose d'important avant que je parle des conséquences négatives, enfin, de la répression. En 1993, est-ce que c'est bien ça ? Il y a eu un rassemblement international de War Resister International, dont la branche francophone est l'Union Pacifique, qui a regroupé 90 personnes venues de 19 pays différents. C'était à Milan.
Juillet 93, j'avais noté ça.
Exactement.
Dans la oui, parce que c'est quand même important, c'est symbolique quand même. C'est la première fois que voilà. Ça se faisait en Turquie, hein, de l'IRG. Là.
C'est ça, le mouvement avait seulement 4 ans et c'était quelque et oui. chose de vraiment important qu'il y ait des gens de
mais d'ailleurs, c'est, différents qui viennent. C'est, ces mouvements-là, c'est des mouvements qui étaient justement assez sensibles dans le, au pays où il commençait à y avoir, ils essayaient d'aider aussi les mouvements qui démarraient. Je crois que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont fait en Turquie. Je sais que, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des gens qui connaissaient l'IRG et ils disaient que c'était un peu leur ce qu'ils faisaient, c'est d'essayer d'aider les mouvements antimilitaristes qui naissaient dans divers pays. Quoi.
Ouais.
Donc ça, certainement, ça a eu un impact à l'époque en Turquie, bien sûr.
Mais c'est ça, je pense que ça a eu un impact psychologique parce que les gens se rappellent encore de ça, d'avoir un soutien international ouais. Tellement important. Et alors, pour parler de la répression, en fait, c'est...
Attends, je te propose... Quand on garde la dernière séquence, on parlera pas que de la répression. On passe petite pause musicale et on va parler de la répression et puis aussi un petit peu de la situation actuelle.
Kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak. İster apokşa, istersen ölünür. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. İçime çektim bir nefeste, yüreğimi tutuklu göğsümü kafeste. Yanacağız ikimiz de ateşte. Bir kıvılcım yeter hazırım bak. Aşk için ölmeli aşk o zaman. Ateşlere yürüyorum Allah'ım acı ile aşk ile büyüyorum.
Dernière séquence avec Aurélie Stern autour d'un livre L'antimilitarisme en Turquie aux éditions de l'Atelier Libertaire, de Création Libertaire. Voilà, donc je rappellerai tout à fait à la fin de l'émission d'ailleurs. On en était un peu dans les années 90, on va dire, un mouvement antimilitariste fortement lié à l'anarchisme qui se développe et effectivement on avait commencé à parler que. Le pouvoir se laisse pas faire, donc prend un certain nombre de mesures contre eux. Tu avais commencé à en parler.
Oui, alors en 1996, on assiste à la première, au premier emprisonnement d'objecteurs. Donc c'est Osman Murat Ülke, qui était un Turc originaire d'Allemagne et qui avait été envoyé par sa famille en Turquie quand il avait 15 ans parce qu'apparemment sa famille n'avait pas trop confiance à, je sais pas, une adolescence passée en Allemagne.
Ah, oui.
Donc il a été envoyé dans un internat en Turquie. Et en fait, il est devenu anarchiste et il a refusé d'effectuer son service militaire. Et il a été emprisonné pour ça. Et on peut dire qu'il est le premier à avoir vécu un cercle infernal qui est le cercle... prison, armée, prison, parce qu'en fait, effectuer une peine de prison n'exempte pas de faire son service militaire. Donc, c'est passé 3 mois en prison, après être amené au service, de nouveau refuser ou fuir, de nouveau être attrapé, refaire une peine de prison, de nouveau être amené au service.
Il faut quand même une certaine, soit des militants d'une certaine solidité pour.
Et en plus après, il peut avoir des peines plus longues parce que ça peut être un refus, comment on dit. Enfin, le deuxième refus est plus pénalisé que le premier.
Ah oui, d'accord.
Et en plus, le fait d'objecter de manière publique, ça peut aussi amener à une condamnation de refroidir le peuple de l'armée.
Parce que, le point dont on avait parlé tout à l'heure. Peut poser une question.
Non, juste faire une réflexion. Ce cercle infernal me fait beaucoup penser à celui qu'on connaît, nous, en France, avec le prélèvement d'ADN. C'est sur le même principe.
Oui, en France, en ce moment, ils essaient de multiplier les prélèvements d'ADN, je n'ai pas entendu parler, et effectivement, tu refuses, c'est condamné, on te le repropose, c'est exactement la même, dans un autre contexte, c'est exactement la même idée, quoi. Enfin la même idée du pouvoir. Voilà.
Et voilà, donc ce cercle infernal a duré 3 ans, il y a eu une campagne nationale et internationale pour faire libérer... Ousmane Muratulki, que tout le monde appelle aussi. Alors, si vous rencontrez des Turcs, il faut dire aussi, parce que sinon, ils ne vont pas comprendre de qui vous parlez. Et en fait, suite à cette mobilisation, le mouvement s'est énormément fatigué, on pourrait dire. Parce que lui, quand il est sorti de prison, il était tout à fait partant pour continuer les actions. Et simplement... ses camarades lui ont dit, mais là, il faut... littéralement, ils lui ont demandé de reculer un peu.
C'est ça, ce que t'expliquais, c'est que le mouvement s'était tellement investi pour faire libérer, ça s'explique dans le livre, pour faire libérer un certain nombre d'objecteurs, qu'ils étaient un peu épuisés par ces actions, c'est ça?
Voilà, ils étaient épuisés par les actions. Et en fait, durant cette période, il n'y a plus tellement d'objecteurs pendant... je ne sais plus, 3, 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça, où tout d'un coup, déjà, les gens étaient impressionnés, ils ont eu peur, et en plus, ils étaient épuisés, donc ils laissent fermer l'organisation. Enfin, l'État essaye de fermer l'organisation et les militants ne se défendent pas tellement. Et c'est pour ça qu'à partir des années 2000, à la place d'être organisés avec des statuts officiels, ils lancent ce qu'on appelle les initiatives, qui sont aussi des organisations, simplement, elles n'ont pas de statut.
C'est ça, il n'y a pas de statut, donc c'est plus souple. Théoriquement, un peu plus à l'abri de la répression en tant qu'organisation.
Voilà. Ouais. Mais quelque chose qui est très étrange en Turquie, c'est qu'ils aiment beaucoup les organisations officielles. Je pense que c'est pour une volonté de reconnaissance. C'est qu'aussi, si on a un statut officiel, on peut avoir un compte à la banque, on peut louer des locaux, tout ça au nom de l'organisation.
D'accord.
Si c'est informel, c'est plus compliqué. Parce que... c'est en 2013 qu'une nouvelle organisation a été formée, qui est l'Organisation pour l'objection de conscience. Mais donc, entre 2000 et 2013, il n'y avait pas d'organisation avec des statuts légaux. Et alors 2005, on a l'arrestation de Mehmet Teran, qui, à son tour, entre dans le cycle infernal. Il y en a aussi eu d'autres d'arrestations, mais je vais parler particulièrement de Mehmet Teran parce qu'il est homosexuel. Et qu'en fait, en Turquie, les homosexuels ne sont pas obligés d'aller au service militaire.
Oui, mais explique un peu comment ça se passe, c'est assez affolant quand même. Hein.
Voilà, ils doivent pouvoir prouver leur homosexualité. N'est considéré comme homosexuel que quelqu'un en position passive. Et donc, il faut montrer des films et des vidéos... de soi-même, en plein coït, en position passive, plus aller à l'hôpital militaire pour se faire inspecter par des équipes de médecins militaires qui apparemment humilient de manière tout à fait volontaire. Parfois, il y a plusieurs équipes différentes qui viennent et qui les traitent de PD, qui rigolent. Ils peuvent rester à l'hôpital militaire pendant au moins 3 semaines. Donc, Mehmet Teran... il a refusé, pas uniquement parce qu'il ne voulait pas vivre ce procédé humiliant, mais aussi parce qu'il disait qu'il était un homme. Ce n'est pas parce qu'il était homosexuel qu'il ne devait pas être considéré comme un homme. Et qu'en tant qu'homme, il objectait parce qu'il pensait que le service militaire était quelque chose de faux. Et donc il y a eu toute une campagne autour de ça. Et ce n'est certainement pas un hasard que la première Gay Pride ait eu lieu en Turquie en 2006. Donc, un an après l'arrestation de Mehmet Teran, il y a des Gay Pride maintenant chaque année à Istanbul et des Trans Pride aussi. Et en 2006, il y a aussi eu un festival vraiment très rigolo qui a duré 3 ans, qui s'appelait le Festival Militouriste, donc une conjonction entre le mot militarisme et tourisme, à Izmir, Ankara et Istanbul, qui était une espèce de fausse visite touristique de tous les bâtiments et les symboles qui avaient trait au militarisme. Et ils s'arrêtaient notamment devant l'hôpital militaire, en mettant un cageot de pommes pourries, parce qu'en fait, les gens qui sont réformés du service militaire pour homosexualité ou pour obésité, pour maladie mentale, des choses comme ça, ils obtiennent un rapport qui s'appelle un Turuk rapport, donc un rapport pourri. Littéralement, ça veut dire pourri. Et donc, ils lançaient des slogans avec des pommes pourries en disant que... que voilà, c'est que l'hôpital militaire d'Istanbul qui s'appelle le Gata est le plus grand centre d'archives gay au monde. Ce qui est vrai, en fait, c'est quelque chose, une question qu'on peut se poser, c'est qui visionne toutes ces vidéos et... Et donc, suite à ça, apparemment, l'histoire des vidéos et des photos, ils ont arrêté d'en demander de manière trop systématique dans les grandes villes. Ça existe encore, hein, et ça existe encore dans des petites villes, mais disons, le gouvernement turc a eu un petit peu peur de cette publicité. Mais le coup de l'inspection à l'hôpital militaire, ça aussi, ça existe encore. Même à une époque, il y a une loi qui n'a pas passé, mais qui a failli passer, c'était de demander aussi un certificat de la famille pour dire qu'ils savaient que leurs enfants étaient homosexuels. Ce qui, en fait, aurait été terrible, parce que la plupart du temps, les familles ne le savent pas. Et donc, à la fin de ce festival, il y avait des déclarations d'objecteurs de conscience.
Oui, y compris de femmes et tout ça. Là.
Exactement, de femmes et de lycéens. C'est à cette époque où ça commence. Parce qu'ils considèrent qu'ils sont aussi citoyens et qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les hommes
qui... Oui, symboliquement, c'est quand même assez fort. Quoi.
C'est ça.
Ça a dû marquer un peu quand même. Enfin, je ne sais pas quelle publicité il y a eu par rapport à ce genre de choses. Non, ça, enfin, je ne sais pas si tu sais, les impacts dans la population, sans doute des impacts peut-être négatifs d'ailleurs, je ne sais pas, de ces déclarations de femmes.
Dans la population, je ne sais pas, en tout cas dans les médias, il y a eu des articles...
Oui, ça a eu un écho quand même.
Voilà. Et c'est les femmes qui disaient qu'elles ne voulaient pas laisser le mouvement antimilitariste seulement aux hommes. Parce que déjà, l'histoire est écrite par les hommes. Donc, à partir du moment où on critique le militarisme aussi en tant que domination de l'homme sur la femme, il n'y a pas de raison que ce soit que les hommes qui puissent objecter. Et par rapport aux femmes, en fait, et au rôle des femmes en Turquie, mais aussi dans le PKK. Oui, parce que là, je vais parler un petit peu du PKK.
Oui, les quelques minutes qui restent, justement, c'est important que tu dises par rapport à tout ce que tu dis là, quel était le lien ou pas avec le PKK, qui est quand même, même s'il y a peut-être une évolution, mais c'est quand même, ne serait-ce que par rapport à son objectif, c'est quand même une organisation militaire dans laquelle il y a des femmes, d'ailleurs, en tout cas des volontaires. Et comment ça s'est passé avec ce mouvement antimilitariste qui est théoriquement pas d'accord avec la façon dont fonctionne le PKK.
Alors en fait, il y a beaucoup de militants du PKK qui depuis longtemps refusaient d'aller à l'armée. Simplement, ils ne se disaient pas objecteurs de conscience, ils fuyaient. Parce qu'en Turquie, les objecteurs de conscience, c'est uniquement ceux qui font des déclarations publiques. Après, il y a les Kaçak, qu'on peut appeler les déserteurs. C'est ceux qui, simplement, ne se rendent jamais au service militaire. L'armée vient les chercher 2 fois à domicile. S'ils ne sont pas là, l'armée ne revient plus. Et ils sont dans une situation de mort civile. Ça veut dire que personne ne va venir les chercher à la maison, mais ils ne peuvent pas ouvrir un compte à la banque, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent rien faire d'officiel où ils doivent utiliser en fait, leur papier d'identité. Et ça, il y en aurait entre 500 000 et 700 000 en Turquie, alors que les objecteurs de conscience, pour l'instant, on est à peu près 500. Donc c'est une grande différence. Et dans les militants du PKK, il y a toujours eu des gens qui n'allaient pas à l'armée. Le problème, c'est que le mouvement des objecteurs de conscience, celui dont je vous parle depuis le début, Il n'avait pas forcément envie d'avoir une couleur qui était la couleur du PKK, parce qu'en tant qu'antimilitariste, donc, une partie d'entre eux considère le PKK comme une organisation militariste, en disant que finalement, c'est une armée. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent au sein du PKK, qui peuvent ressembler à l'armée turque. Par exemple, ils ont aussi leur grand leader. Alors, ce n'est pas Atatürk, mais c'est Abdullah Öcalan. Mmh. Ils ont aussi l'interdiction d'avoir trop de liens avec leur famille, parce que finalement, le PKK devient la nouvelle famille, comme l'armée devient la nouvelle famille. Et donc, vous pourrez le voir plus en détail.
Oui, j'avais noté une phrase, je crois que c'est au festival, je ne sais pas si c'était une banderole ou quoi, enfin tu me diras, ne pas aller à l'armée ni à la montagne. Alors la montagne, évidemment, ça fait référence au PKK.
Exactement, donc c'était l'idée du mouvement d'objecteurs de conscience. Et donc, je dirais, enfin on peut appeler la branche dure, c'est ceux qui veulent avoir aucun contact avec les militants du PKK. Et qui pensent d'ailleurs que leur lutte n'est pas vraiment légitime parce qu'ils devraient le faire d'une manière pacifique. Après, il y a ceux qui trouvent que ce que fait le PKK, c'est de la légitime défense. Donc, que c'est quand même légitime et qui acceptent de participer avec eux de manière ponctuelle, mais sans vouloir être assimilés à eux. Et il y en a aussi qui, en fait, sont des militants du PKK et qui veulent, qui sont objecteurs de conscience.
Oui, il y a une liste d'ailleurs séparée, je crois, assez nombreuse d'ailleurs, de près 250, je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement le chiffre, qui se revendiquaient d'être kurdes, c'est ça, d'objecteurs kurdes.
Exactement. Alors, en fait, il y a un site qui s'appelle le site de ceux qui sont contre
d'accord,
la guerre.
D'accord.
Et sur ce site, en des années, péniblement, on arrivait à peu près 300 noms d'objecteurs. De toute origine ethnique confondue, des gens qui viennent à base des Balkans ou des Kurdes, il n'y avait pas du tout de discrimination. Mais après ça, en fait, un groupe, en une journée, a envoyé une liste de 300 non-Kurdes. C'était un groupe très proche du PKK. Et en fait, les objecteurs de conscience qui s'occupent du site, etc., ont refusé de mettre la liste, enfin de les ajouter à la liste initiale. Du coup, ils ont fait une deuxième liste et l'ont mis à part.
Ça s'est fait comme ça, oui.
Voilà, parce qu'ils disaient on ne peut pas vraiment vérifier les noms de chaque personne. Finalement, c'est des gens qu'on ne connaît pas, ça arrive d'un coup, etc. Donc, il y a ce débat. Et pour reparler des femmes, en fait, on peut dire qu'en Turquie, il y a quatre figure de femme. La première, c'est Ayşe. Donc Ayşe, c'est la mère. D'ailleurs, par rapport à ça, je vais vous lire une citation. Ce qui est en fait une berceuse pour les enfants. Qui est « petite Ayşe, raconte-moi ce que tu fais. Je m'occupe de mon bébé et je lui chante une berceuse. Petit soldat, raconte-moi ce que tu fais. Je m'occupe de mon arme et je lui ajoute une baïonnette. » Donc on voit que déjà aux enfants tout petits on leur chante ça, donc ça montre que voilà l'homme doit être un soldat parce que chaque Turc naît soldat et que la femme c'est la maman qui reste à la maison et qui s'occupe de ses bébés. Il y a la deuxième figure, c'est Kezban. Elle c'est l'épouse qui est l'épouse plutôt villageoise, naïve, qui attend son mari pendant qu'il est parti à la guerre. Et après il y a deux figures de femmes qu'on peut dire masculinisées. Donc Sabiha Gökçen, la fille adoptive d'Atatürk, qui est en fait pour aller bombarder les Kurdes, comme j'en ai parlé avant. Elle n'a pas pu y aller directement. Son père a parlé avec ses proches conseillers pour savoir de quelle manière est-ce que cette chose pourrait être possible. Parce que le problème, c'est qu'elle avait un corps de femme. C'était l'unique problème. Et que donc, une femme qui pourrait être attrapé par les ennemis.
Ah oui.
Si on touchait au corps de la femme, c'est comme si on touchait au corps de la nation. On la souillerait, etc. C'est toujours l'idée que la femme est l'honneur de l'homme, que l'homme de la femme, enfin que le corps de la femme est lié à l'honneur de l'homme. Et donc ils ont accepté qu'elle y aille, mais avec une condition, c'était que au cas où elle serait faite prisonnière, elle devrait se suicider avant qu'on puisse toucher à son corps.
Pour
donc c'est là où on montre que finalement, c'était la femme soldat. Elle a eu le droit d'exister de cette manière-là comme soldat en effaçant complètement son corps. Et malgré tout, elle n'arrivait pas à l'effacer assez pour pouvoir être comme les autres. Elle devait promettre un suicide. Et il y a encore une quatrième image de femme. C'est Zilan, c'est la combattante kurde qui est est mort dans un attentat suicide à Dersim. Et en fait, elle, c'est exactement le miroir de Sabiha Gökçen, parce que la femme kurde dans les guérillas, elle est l'égale de l'homme, mais en tant que soldat. Elle a pas du tout, enfin, il y a pas de place pour sa féminité, parce que finalement la sexualité est proscrite au sein du PKK. Les relations amoureuses aussi sont proscrites. Et donc les femmes qui sont au sein du PKK ont le droit d'être comme des hommes. Et il y a tout un débat autour de ça. J'ai discuté très souvent de ça avec des militants kurdes qui disent que il faut comprendre bien sûr le contexte, c'est que les régions kurdes, c'est des régions extrêmement conservatrices, où les filles peuvent être mariées à la puberté, donc à 13-14 ans. Et finalement, pour que les familles acceptent de laisser leurs filles partir dans les montagnes, elles veulent être sûres que les choses se passeront, enfin qu'elles n'auront pas de relations sexuelles. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une interdiction d'alcool, en fait. Donc c'est ce qu'ils disent. Après, bah, c'est quelque chose qui peut être critiquable dans le PKK, c'est que c'est extrêmement autoritaire. Et donc, pour moi, c'est important de parler de ça, parce qu'actuellement, on parle, pas forcément du PKK, mais on parle des YPG, qui est la branche syrienne du PKK, en disant qu'en fait, c'est extrêmement féministe, etc. Moi, je pense que c'est pas vraiment ça, être féministe, parce que sinon, il n'y aurait pas ce genre d'interdiction. Sinon, la femme pouvait être reconnue en tant que femme, avec aussi le droit de vivre sa sexualité, etc. Voilà.
Bah écoute, il y a encore beaucoup de choses à dire, notamment sur le dernier aspect.
J'ai pas parlé des objecteurs de conscience musulmans, donc il faut juste savoir qu'il y en a quelques-uns aussi.
Oui, c'est pas que je veux te couper, mais je pense, Monique me dit qu'on a plus de minutes. Voilà. Et effectivement, donc à la fin du livre, tu parles qu'il y a des objecteurs de conscience dans le milieu musulman et qu'il y a même certains contacts avec des anarchistes.
Exactement, et voilà. Donc qui, au nom de l'islam, peuvent être pacifistes, ou alors qui ne sont pas pacifistes, mais qui voudraient rejoindre une armée musulmane et qui considèrent que le gouvernement actuel n'est pas musulman. Donc c'est quelque chose qui existe aussi, et il y a beaucoup de contacts entre la gauche et ces milieux musulmans antimilitaristes aussi.
Bah écoute, on te remercie. On n'a pas parlé de tout, bien sûr. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Donc, le livre à lire, ça s'appelle « L'antimilitarisme en Turquie » d'Aurélie Stern. Et c'est à l'atelier de création libertaire. On le trouve, bien entendu, à Publico et dans d'autres librairies. Et d'après ce que je crois savoir, ils se vont bien.
Eh bien, merci. Au revoir.
Au revoir.
Fırtınalar sarsıyor göğü, kara bulutlar kör eder gözleri. Ölüm ve acı beklese de bizleri, onları yenmek için yürümeliyiz be. Elde yakın varlığımız özgürlük, cesaret ve inançla savunmalıyız. Haydi barikata, haydi barikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barikata, haydi barikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Kardeşlerimizle, kardeşlerimizle, tüm dünyada büyüyor direniş. Haydi barikata, haydi barikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barikata, haydi barikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Terrible.
schön ging ja da für die nicht. Heike Barrikata, Heike Barrikata, ich mein Katar mit Bengel zu Lüttichin. Heike Barrikata, Heike Barrikata, ich mein Katar mit Bengel zu Lüttichin. Heike Barrikata, Heike Barrikata, ich mein Katar mit Bengel zu Lüttichin. Heike Barrikata, Heike Barrikata, ich mein Katar mit Bengel zu Lüttichin. Heike Barrikata, Heike Barrikata.